au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Nous allons nous préparer à écouter la parole du Seigneur. Mais j'ai à cœur ce matin, avant de pouvoir vous partager ces quelques pensées tirées de la parole de Dieu, j'ai à cœur de prier pour certaines personnes au milieu de nous. Comme vous le savez, nous l'avons chanté. Nous voulons que la gloire du Seigneur resplendisse sur notre beau pays. Alléluia. Quelquefois, nous ne sommes pas conscients de ce privilège que le Seigneur nous a accordé d'avoir un pays au cœur de l'Afrique, parmi les plus beaux du monde. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est un très beau pays. Alléluia. Et nous voulons que la gloire du Seigneur resplendisse sur notre pays. Nous voulons que le Seigneur puisse agir, qu'il visite l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Que du soleil levant au soleil couchant, le nom du Seigneur soit loué, soit adoré dans notre pays. Et nous voulons donc que le Seigneur bénisse tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont des responsabilités dans ce pays. Et nous avons la grâce d'avoir au milieu de nous des frères et des sœurs qui, de par leur position, assument les hautes fonctions, les hautes responsabilités. Je voudrais que nous puissions prier pour eux, afin que le Seigneur leur donne la sagesse, l'intelligence, d'être toujours ce flambeau qui brille au sein des ténèbres, d'être toujours ces hommes et ces femmes sur qui Dieu peut compter pour visiter puissamment notre pays. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et nous voulons présenter toutes ces personnes à Dieu, présenter tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux que le Seigneur a élevés d'une certaine manière, que le Seigneur pose sa main et qu'il les garde, qu'il les protège, qu'il combatte pour eux, mais qu'il pose également sa main au sommet de la nation afin qu'il donne au chef de l'État, à tous ses collaborateurs, la sagesse, l'intelligence, l'onction dont ils ont tant besoin pour mener ce pays là où le Seigneur le veut. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier. Ô Dieu, pour notre cher et beau pays, le Congo. Ce n'est pas par hasard que nous sommes nés sur cette terre, au cœur de l'Afrique. Et notre responsabilité, Seigneur, c'est de porter ce pays dans notre cœur, mais également de te présenter ce pays afin que tu le bénisses. Notre prière est que ta lumière, Louise, brille dans notre pays, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour, ô Seigneur, toutes les personnes à qui tu as donné la sagesse, l'intelligence, à qui tu as fait le privilège de pouvoir présider aux destinées de cette nation, aux destinées de ce peuple que nous sommes. Bénis tous ceux-là, Seigneur, et toutes celles-là, ô Dieu, qui sont parmi nous ou qui ne sont pas parmi nous, que ta grâce surabonde sur chacun d'eux, que ta lumière brille et resplendisse sur notre beau et merveilleux pays. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous voulons te tendre maintenant une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous voulons que ta parole soit pertinente ce matin. Seigneur, comme à toutes les fois, comme toutes les fois que nous nous rassemblons, tu es là pour nous parler, pour nous faire du bien. Nous voulons croire que ce matin tu es là aussi, dans ce même but. Nous parler, nous faire du bien par ta parole. Bénis-la, sanctifie-la dans nos cœurs. Bénis-la, Seigneur, qu'elle puisse, ô Dieu, accomplir l'œuvre pour laquelle elle va être proclamée par ton serviteur. Donne-nous l'intelligence de l'esprit, celle d'en haut, afin que nous puissions comprendre et saisir ta parole, la mettre en pratique et ainsi être bénis à tes yeux, et ainsi poursuivre notre marche avec toi. Merci, Jésus. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons rester dans le même registre, à savoir monter, apporter et bâtir. Mais cette fois-ci, nous allons voir un autre thème, mais qui s'inscrit dans cette vision d'ensemble, dans cette vision que le Seigneur nous donne pour cette année 2014. Et mon thème de ce matin, c'est la priorité suprême. Et notre texte de base est 1 Corinthiens chapitre 3. En Corinthiens chapitre 3, nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, ensuite du verset 16 jusqu'au verset 17. En Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, nous lisons. En effet, nous dit la parole, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, dit l'apôtre, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes et c'est ce que nous sommes. Amen. Gloire au Seigneur. La priorité suprême. Puis-je encore revenir à ces trois verbes qui sont censés nous accompagner tout au long de cette année? Ces trois verbes qui constituent la base de notre vision, eh bien, ces trois verbes sont des occasions, des opportunités uniques, singulières que le Seigneur nous donne de pouvoir nous rendre actifs tout au long de cette année. Car l'homme est appelé à être actif. Amen. Dieu nous a dotés de ressources intellectuelles, morales, physiques, psychologiques, spirituelles et autres, afin que nous soyons actifs. Gloire à Dieu. Aussitôt après sa création, la Bible nous dit que Dieu donna une responsabilité à Adam, là dans le jardin d'Éden, avant même que le péché arrive, afin même que le diable intervienne dans la relation de l'homme avec son Créateur. C'était donc à Adam que revenait la responsabilité de veiller sur le jardin d'Éden. C'était donc à Adam de pouvoir donner le nom aux différents animaux. C'était à Adam, mes amis, de pouvoir tout faire pour que le jardin d'Éden soit ce que Dieu voulait qu'il soit et demeure dans cet état. Et en même temps, c'était à Adam que revenait la responsabilité de tout faire afin que Dieu continue à descendre dans ce jardin et continuer à communier avec l'homme fait à son image et à sa ressemblance. Gloire à Dieu. En conjuguant ces trois verbes, monter, apporter et bâtir, et ce au présent, nous allons, frères et sœurs, assumer notre vocation. En le conjuguant, nous allons accomplir notre raison d'être ici-bas. Car nous ne sommes pas là par hasard. Pas du tout, mes amis. Même si vous êtes nés à cause d'une aventure de ta maman et de ton père, même si vous n'avez pas été désiré, mais dès lors que vous êtes nés, mes amis, sachez que le plan de Dieu pour votre vie s'est déclenché. Alléluia. Nous avons donc une raison d'être ici sur terre. Et cette raison d'être, cette vocation, c'est servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Amen. Et ces trois verbes, mes amis, nous donnent justement cette occasion de pouvoir servir Dieu d'une manière ou d'une autre, le servir à partir de ce que nous sommes et le servir avec ce que nous avons. C'est de cette manière que nous pourrions accomplir la vocation à laquelle il nous destine. Dieu est contre toute forme de fainéantise. Dieu est contre, mes amis, toute force d'indolence, toute sorte d'indolence. Dieu, qui nous a créés à son image, est un Dieu actif depuis la création. Alléluia. Il agit, mes amis. Encore aujourd'hui, il agit. Et il aimerait que celui qui l'a fait à son image sache qu'il a une vocation assumée, qu'il a une raison d'être à accomplir. Il n'est pas là comme un porc, appelé à consommer encore. Il n'est pas là comme une bête de somme. Non, mes amis, il est là pour assumer une vocation. Cependant, ce service, qui est donc notre vocation, notre raison d'être, ne peut être un service qui glorifie notre Créateur, qui glorifie notre Seigneur, et en même temps contribue à notre propre épanouissement, à notre propre bonheur, que si nous respectons les différentes priorités en rapport avec ce service. Nous devons savoir, frères et sœurs, que dans la vie de tous les jours, et ce dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de respecter les priorités, de les placer là où il faut pour que nous puissions jouir pleinement de la vie, pour que nous puissions vivre et réussir d'une manière ou d'une autre. Prenons le cas de quelqu'un qui travaille. Pour quelqu'un qui travaille, eh bien, le travail reste une priorité. Il va tout faire en fonction de son travail. S'il est invité par la famille, il devra voir si cette invitation, eh bien, ne l'empêcherait pas à aller au travail, oui ou non. Il ne mettra pas ou il ne devra pas mettre les divertissements, les ceci, les visites familiales sur le même pied d'égalité que le travail, s'il veut continuer à travailler et à s'épanouir dans son travail. Donc, quand on est employé quelque part, eh bien, on doit savoir que le travail est une priorité pour nous. Et nous devons tout faire pour exceller dans notre travail. Pour un étudiant, eh bien, ce sont les études. Les étudiants qui vont jusqu'au terme de leur cursus, ce sont des étudiants qui prennent au sérieux leurs études. Ils savent que les études sont une priorité. Ils ne vont pas se laisser distraire par des amis, par toutes sortes de choses. S'il y a un copain qui les invite à aller danser je ne sais où, à la veille de la session ou d'un examen, eh bien, ils diront quoi? Non. Car ma priorité, ce sont les... C'est en respectant cette priorité que cet étudiant ou cette étudiante pourra donc réussir et aspirer à arriver jusqu'à décrocher un diplôme. S'il confond des priorités, quoi qu'il soit intelligent, il risque de ne pas aller loin. Donc, même dans ce domaine-là, nous voyons qu'il faut respecter les priorités. Pour un homme ou une femme mariée, l'autre reste une priorité. Les mariés ne sont pas d'accord. Le problème commence lorsqu'on met son mari sur le même pied d'égalité que sa famille, que son oncle, que son grand frère ou sa petite sœur. Voyez-vous? Dès que la petite sœur est là, c'est fini, on oublie le mari. Ah oui, dès que le mari veut poser, ah oui, mais tu sais que nous, on a grandi, on a toujours été très attachés, hein, très liés. C'est bien tout cela, mais si ça continue, ça risque un jour de créer une fracture au sein du foyer, n'est-ce pas? Donc, pour l'homme, c'est la même chose. La femme reste sa priorité. Alléluia. Il doit tout faire pour la satisfaire, pour pourvoir à ses besoins. Même s'il faut qu'il lui dise 10 fois par jour qu'il l'aime, il faudra qu'il le lui dise. Ah oui, mais elle sait que je l'aime, non? Elles ont besoin d'entendre de temps à autre mon chou, ou ma carotte, ou mon lingalinga, je t'aime. Oui. Le contraire est aussi vrai. L'inverse est aussi vrai. Nous avons besoin d'entendre régulièrement. Oh mon chou, je t'aime. Alléluia. Pas dire, ah oui, mais tu sais, nous sommes mariés depuis 18 ans. Elle le sait, non? Il le sait. Nous, on a besoin d'entendre. Eh bien, donc dans un mariage, l'autre reste une priorité. Et si on veut réussir son mariage, il faudra respecter cette gloire à Dieu. Donc, les priorités doivent être placées afin de nous permettre à avancer en les respectant. Si nous confondons les priorités, nous risquons d'aller au-devant d'une catastrophe. Nous risquons, mes amis, de tourner en rond. Elles doivent être mises à leur place si nous voulons connaître une vie plus épanouie, plus harmonieuse, une vie plus réussie, plus équilibré. Et ceci est vrai dans tous les domaines de notre vie. Et les problèmes surviennent lorsqu'il n'y a plus d'équilibre, ou du moins, il n'y a plus de respect en ce qui concerne la manière de gérer ses priorités. Il en est de même, mes amis, de notre vie, de notre marche avec le Seigneur. D'où la nécessité de savoir quelles sont les priorités dans le service auquel nous aspirons et pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Car il nous a sauvés pour que nous le... Alors, quelle est cette priorité suprême en rapport avec le service auquel le Seigneur nous appelle? Que nous soyons pasteurs, que nous soyons évangélistes, diacres, diaconesses, que nous ayons telle ou telle autre responsabilité dans le corps du Christ, que nous n'ayons pas de responsabilités et soyons simplement des disciples, quelle est la priorité suprême pour chacun de nous? La priorité des priorités. La priorité avec grand P pour chacun de nous. Eh bien, nous allons revenir à notre texte et le considérer très attentivement pour voir que ce texte nous parle de trois niveaux dans le ministère auquel le Seigneur nous appelle. Ces trois niveaux de service sont, premièrement, c'est le service pour Dieu. Alléluia. Le service pour Dieu. Deuxièmement, le service avec Dieu et le service rendu envers Dieu. La nuance est détail. Pour Dieu, avec Dieu et rendu à... Commençons très rapidement avec le premier service, le service pour Dieu. Paul nous dit dans ce passage ceci: j'ai planté, Apollos a, mais Dieu a fait croître. L'un comme l'autre ont fait quelque chose pour le Seigneur. Paul est arrivé dans cette ville, il a semé. Apollos est arrivé, il a arrosé. Et en fin de compte, Dieu a fait, gloire à Dieu. Chacun a fait quelque chose. Mes amis, nous avons reçu tant de choses de la part de Dieu. Et ce que Dieu attend de chacun de nous, dans ce que nous sommes et avec ce que nous avons, c'est que nous puissions le servir avec tout cela. Que nous puissions faire quelque chose pour notre Dieu. Regardez derrière moi, il y a des choristes avec des voix angéliques incroyables. Chaque dimanche, nos bien-aimés sont là pour chanter. Pour qui? Ah, pour Dieu. En tout cas, je l'espère. Les musiciens sont là pour... Ils ont reçu quelque chose dans ce domaine qu'ils utilisent pour le Seigneur. Celui qui dirige la réunion, il n'est pas le seul, il se succède. Eh bien, tous ceux-là font quelque chose pour... Je prêche pour... Eh bien, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à poser des actes, à faire des choses pour notre Dieu. Il attend de chacun de nous que nous soyons très actifs dans ce domaine-là. Gloire à Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a rien qu'il puisse utiliser et mettre au service du Seigneur. Nous avons tous reçu sa grâce. Et cette grâce se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc, à ce niveau, nous voyons la nécessité. Nous voyons le bien fondé, mes amis, d'être actif pour le Seigneur, de pouvoir utiliser toutes nos compétences, tout ce que le Seigneur nous a donné pour lui et pour lui seul. S'il nous a donné une belle voix, eh bien, utilisons cette voix pour sa gloire. S'il nous a donné la capacité de savoir manipuler ou manier tous ses instruments, faisons-le pour... S'il nous a donné d'étudier, mes amis, de nous spécialiser dans tel ou tel autre domaine, même si cela n'aurait pas de rapport direct avec le spirituel, mais en tant qu'enfant de Dieu, cela a un rapport avec le Seigneur. Tout en nous lui appartient. Si nous sommes plombiers, eh bien nous sommes appelés à exercer ce travail de plombier pour le Seigneur. C'est parce que nous oublions cela, mes amis, que nous transformons notre travail en un moyen d'arnaquer, d'escroquer les autres. On nous demande de faire un devis, eh bien, nous le surévaluons. Parce que nous oublions que même en étant plombier, nous sommes censés travailler pour tout en nous, mes amis, devrait être mis au service du Seigneur. Je suis avocat. Eh bien, je dois travailler avec honnêteté, avec sincérité, et pas défendre n'importe quelle cause. Un de mes collaborateurs en Europe est avocat au barreau de Bruxelles. Il s'est juré dans sa vie de ne pas plaider les causes des divorces. Et il ne le fait pas. Voyez? Ou traiter des dossiers où c'est manifeste que la personne ment. Oh, j'ai fui le Congo. On a essayé de me tuer. C'est du mensonge, tout le monde le sait. Alors tu vas défendre, la personne te dit, et puis on lui donne même des conseils, il dit non, je suis avocat. Tu ne peux pas, il dit non, là j'agis comme avocat, ici je suis chrétien. Là ça devient un comportement schizophrénique. Le dédoublement de la personnalité. Vous voyez? Si nous sommes avocats et chrétiens, alors que cela se reflète même dans le prétoire. Là où nous sommes censés défendre les gens. Lorsque la personne a volé, il dit, mais écoutez, reconnais simplement que tu as volé. Ça ne sert à rien de vouloir aller trouver des circonstances atténuantes alors qu'il est manifeste que la personne est un grand voleur. Le travail pour Dieu, avec tout ce que nous avons, mes amis, travailler pour Dieu, assumer n'importe quelle responsabilité, professionnelle, politique ou autre, pour le Seigneur, alors cette responsabilité sera une grâce et une bénédiction, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Le travail pour Dieu, prêcher pour Dieu, voyez-vous, nous le faisons d'abord pour le Seigneur. Même si avec le temps, certains considèrent le ministère aujourd'hui comme un moyen de vivre. C'est comme, je ne sais pas avec qui je parlais, on a l'impression aujourd'hui que lorsque une femme épouse un pasteur, forcément, elle est appelée aussi à être pasteur. Qui vous a dit ça? Alors les mamans pasteurs partout. Vous les voyez s'agiter derrière leurs écrans racontant des inepties incroyables. Oh, c'est maman pasteur. Ce n'est pas parce que vous êtes l'épouse d'un pasteur que vous avez un ministère de prêcher, d'enseigner, d'encadrer. Nous devons dénoncer ces choses. Oui. Maintenant, il y a des pasteurs qui ont leurs épouses qui ont reçu le ministère. Là, il n'y a pas de problème. Là, nous devons les encourager. Nous devons donner l'occasion à l'épouse de prêcher, de proclamer la parole de Dieu, d'accompagner. J'ai connu des grands hommes avec leurs épouses, mais qui ont joué un grand rôle et qu'on n'a jamais vu derrière la chair. Et pourtant, grâce à elles, leurs maris ont prêché la parole de Dieu. Leurs maris ont annoncé l'évangile partout. Elles ont assumé leur rôle, bien sûr dans le silence derrière. Mais Dieu seul sait ô combien ce rôle était important. Elles ont tenu la corde pour permettre à leurs maris de continuer à prêcher l'évangile. Donc, nous devons servir le Seigneur. Et pour le Seigneur, prêcher la parole d'abord et avant tout pour Dieu. Une personne avait prêché, et à la fin, on fait passer le panier, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Elle s'est plaint, la personne. Elle dit, ah, dans votre église, on donne ça comme offrande. Mais alors, tu es venu pour l'argent ou pour les âmes? Oui ou non? Nous devons dénoncer ces choses. Voyez, qu'on ait des pauvres, qu'on s'adresse aux pauvres, aux gens nantis, eh bien, ce n'est pas ça qui devrait nous motiver. Ce sont tous des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Et lorsqu'il nous donne l'occasion de leur apporter l'évangile, eh bien, prêchons-leur l'évangile. Voyez, sans tenir compte de ce qu'il y aura dans le panier. Qu'il y en ait peu, qu'il y en ait beaucoup, notre joie devrait être celle d'avoir annoncé le royaume de Dieu. Notre bonheur devrait être d'avoir permis aux gens d'être en contact avec Jésus. Car ceci est la plus grande bénédiction. Le service pour Dieu. Témoigner. Faire tout pour lui. Voyez? La Bible nous dit ceci dans Proverbes 12, 27, je crois, que l'homme nonchalant, l'homme paresseux, ne rôtit pas son gibier. Ah, il a un bon gibier, mais il oublie de le... Et un gibier qui n'est pas rôti finit comment? Par pourrir. Et lorsque le chat ou un charognard passe par là, c'est fini, il emporte tout. Mais, ajoute la parole de Dieu, le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Nous sommes appelés à être actifs, mes amis. Actifs pour le Seigneur. Tout faire pour lui. Je travaille quelque part, eh bien, je voudrais travailler pour le Seigneur. Je ne vois pas d'abord mon chef qui est là devant moi, mais je le fais pour le Seigneur. Et lorsqu'il faut rester, aller au-delà, eh bien, je suis prêt à faire le deuxième mille. Aller au-delà, alléluia. Gloire au Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour mon chef soit interpellé, se dise, mais c'est pas possible. À chaque fois que je lui demande de faire des heures supplémentaires, il le fait toujours. Il est très consciencieux. Eh oui, tu es différent des autres. Les autres le font seulement pour l'argent. Dès qu'il est 16 heures, il surveille. Hein? Dès qu'il est 16 heures, c'est fini. Non, non, 16 heures. Autrement, ils consultent leur syndicat. Mon patron, ça ne va pas, il me garde toujours une heure après, etc. Oui, il y en a qui abusent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, mes amis, nous devrions utiliser notre travail comme un moyen d'être actif pour le Seigneur. On devrait voir le Seigneur dans notre manière de travailler. Il y a cependant, à ce niveau, un danger. Un danger pour beaucoup d'entre nous, qui est donc de faire du service pour Dieu une priorité. C'est-à-dire, on se retrouve en train de faire, de chanter, simplement pour chanter. On se retrouve en train de gratter la guitare simplement pour le faire. Ainsi, à ce niveau, le travail pour Dieu, l'œuvre pour Dieu, l'activité pour Dieu devient une priorité. Et c'est comme ça que nous nous égarons. C'est comme ça que j'ai appris l'autre fois, on m'a dit que voilà, il y a eu tel... Oh, mais cette personne qui chante, je ne sais pas avec quel musicien du monde, mais à l'époque, elle chantait pour le Seigneur. Alors, comment expliquer ce virage à 360 degrés? C'est un moment, on utilise le talent pour le talent. On oublie que chanter ne doit pas être une priorité. Ce n'est qu'un moyen, alléluia, de faire quelque chose pour le Seigneur. C'est lui et lui seul qui doit rester notre priorité. Car on ne chantera pas toute la vie. On ne travaillera pas toute la vie. Il arrivera un moment où le corps sera fatigué, où la voix sera fatiguée, n'est-ce pas? Mais alors, dans ces cas, on fera quoi? C'est là que nous devons arrêter de vouloir chercher de la reconnaissance à partir de ce que nous faisons. Voyez-vous? Chercher notre valeur dans ce que nous faisons, pas du tout. Nous avons une valeur intrinsèque. Que nous fassions ou que nous ne fassions pas, aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Dans nos sociétés occidentales, on a tellement mis l'accent sur le rendement, sur la productivité. Eh bien, dès lors que quelqu'un se retrouve à la retraite, il n'est plus en mesure de travailler, eh bien, il est considéré comme un parasite. Il est mis de côté. Dès lors que quelqu'un, pour une raison ou l'autre, se retrouve handicapé, eh bien, c'est fini, il ne compte plus dans la société. Parce que c'est une société axée sur le rendement, sur la productivité, sur la créativité. Tout cela, c'est bien, mes amis. Mais ça ne devrait pas être fait au détriment de la valeur intrinsèque de l'homme. C'est ainsi qu'il y en a, aussitôt que l'entreprise ferme, eh bien, puisque leur raison d'être, c'était l'entreprise, le jour où l'entreprise soit ferme, eh bien, tout s'effondre. Ils n'ont plus de raison d'être. Et puisqu'ils n'ont plus de raison d'être, la seule chose à faire, c'est de se suicider. Voilà. Ouais. Ou alors, l'entreprise le met à la porte, eh bien, puisque c'était leur raison d'être, c'était la priorité des priorités pour eux, ils se retrouvent au chômage, ils se retrouvent à tourner le pouce, ne sachant quoi faire, eh bien, ils prennent le chemin de la dépression, et petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, ils se suicident. Notre valeur, mes amis, ne dépend pas de ce que nous pourrions faire.
d'une quelconque capacité à faire quoi que ce soit pour Dieu. Non. C'est pourquoi nous devons protéger la vie, qu'elle soit au stade embryonnaire, mes amis, qu'elle soit jeune ou adulte ou personne âgée, la vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez suivi en Europe des femmes qui se rassemblent pour défendre le droit à l'avortement. C'est une forme d'homicide. La vie ne commence pas lorsque la personne sort des entrailles de sa mère. Nous devons dénoncer ces choses. Voyez-vous, la vie est sacrée. J'aimerais vous poser une question à ce niveau. Lorsque vous avez une bougie allumée, quelle est la chose la plus importante pour une bougie? Il y a la mèche, il y a la cire, je ne sais pas comment on appelle, et puis vous avez la lumière. Quelle est la chose la plus importante? Hein? C'est la lumière. Comment? C'est la lumière. Hein? Pourquoi? Que la bougie commence à peine de briller, la lumière est là, non? Une heure après, la bougie se consume, la mèche se consume, la lumière est toujours. Donc, ce n'est pas le temps que la bougie a mis pour éclairer qui fait sa valeur, mais c'est la lumière, la flamme qu'elle donne. Qu'elle soit une bougie toute neuve qui brille, qui vient à peine de commencer à briller, ou alors qu'elle soit une bougie qui a brûlé pendant je ne sais combien de temps, la lumière reste lumière. La vie se présente ainsi à nous, mes amis. Dans le sein embryonnaire, dans le sein maternel, au stade embryonnaire, la vie est vie. Et nous devons la protéger. C'est pourquoi nous devons nous méfier de tous ces mouvements égalitaristes, féministes, ou je ne sais pas quoi, qui naissent dans la foulée de ce genre de choses. Oui, la liberté de la femme. Je veux bien. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Être libre, ce n'est pas seulement faire ce qu'on veut. C'est aussi ne pas faire. Voilà celui qui est libre. Moi, je suis libre de fumer. Vous savez ça? Oui, je suis libre. Mais seulement, je n'en vois pas la nécessité. Donc, je ne fume pas. En cela, je peux dire que je suis. Voilà. Être libre, ce n'est pas seulement faire. Oh, je suis libre de faire ceci. Mais c'est aussi de ne pas faire. Alléluia. Est libre celui, non seulement, qui réclame ce droit. Droit de l'homme. Et on oublie souvent le devoir de l'homme. On devrait avoir des organisations pour le devoir de l'homme. Hein? Pour peu qu'on arrête quelqu'un, tout de suite, au droit de l'homme, ONG, tout ça. Un bandit, un voyou tout fait. Il vole à gauche, à droite, il s'est fait tabasser, le lendemain il va, oh, on m'a tabassé, droit de l'homme. Oui, mais c'est très bien. Nous sommes pour ce droit-là, mais nous sommes aussi pour les devoirs. Les gens doivent apprendre à être responsables dans la vie, et ne pas simplement parler de droit, de droit, de droit, de droit, et en gonflant trop cette notion de droit, les gens n'ont plus de devoirs. Ils attendent tout de l'État. Ils pensent qu'ils sont devenus des princes. On ne peut pas les toucher. Ils brûlent le feu. Ils prennent les routes en sens unique. Et quand on nous arrête, ils commencent à crier, oh là 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 là, on me persécute, droit de l'homme. Soyons sérieux. Donc, nous devons éviter de ne pas faire du service pour Dieu une priorité. C'est simplement une occasion qui nous donne d'être actifs pour lui. Alléluia. Avec tout ce que nous avons, mais aussi avec tout ce que nous sommes. Et si nous ne sommes pas actifs pour Dieu, croyez-moi, nous serons actifs pour nous-mêmes, nous serons actifs pour le monde, et ceci ne pourra que nuire à notre vie. Cela ne pourra que nous égarer davantage. Mes amis, nous pouvons être affairés de travailler, de vrai, d'être actifs pour Dieu, au point d'oublier Dieu lui-même. On se retrouve simplement à chanter. On se retrouve simplement à prêcher, voyez-vous? On se retrouve simplement à faire ceci ou à faire cela pour le Seigneur. Et on oublie Dieu lui-même. Ça sert à quoi de faire quelque chose pour Dieu sans être avec Dieu? Dites-moi un peu. Est-ce que ça sert à quelque chose Alors, faisons attention que nous ne fassions pas de ce niveau de service ou d'activité une priorité. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour le Seigneur. Chanter pour lui, prêcher pour lui, témoigner pour lui, faire des actions sociales, des œuvres sociales pour lui. Mais si nous ne faisons pas attention, toutes ces choses risquent d'être faites avec l'énergie de la chair, avec des ressources strictement charnelles et avec des motivations impures. Car pour Dieu, l'action est une grâce, est une bénédiction, lorsque non seulement elle est posée, mais lorsque les motivations derrière l'action sont nobles. Amen. Nous, nous regardons seulement l'action. Quelqu'un fait un geste pour vous, nous remercions, nous rendons grâce à Dieu. Très bien, mais Dieu seul connaît. Quelle est la motivation derrière? C'est peut-être simplement pour te montrer que lui, c'est la générosité personnifiée. Oui. C'est comme ça que je suis contre tous ces systèmes où les paniers on met devant. On demande aux gens. L'homme aime ça. Allez, venez. Alors vous voyez les gens. Quelquefois, il met la main dans la poche, il regarde d'abord. Mais pourquoi il regarde? C'est pour qu'on sache ce qu'il a mis. Pour qu'on voit. Alors d'autres, c'est qu'on voit un peu comment ils sont habillés. La sapole, comment? Ah, c'est pas possible. Moi, je pensais que cette histoire était terminée avec, à l'époque, le Nyarkos, je ne sais pas quoi. En zappant, j'étais encore surpris qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui font ça. Qui passent toute leur vie à s'habiller. Au lieu d'habiller leur âme. Comment quelqu'un peut trouver de la valeur dans un vêtement? Là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ainsi qu'on a vu des gens de l'autre côté. J'en connais, j'en ai connu. Ils vivaient à 4 ou 5 dans un petit studio à Paris. Et tous les 3 ou tous les 4 travaillant, faisant des jobs à gauche, à droite. Mais tout l'argent, c'était pour acheter des chaussures de 1 000 $, 1 000 €. Mais quand vous alliez voir là où ils habitaient, je disais, mais c'est pas possible. Nous sommes quand même en Europe, insalubre. La douche, c'est peut-être tous les 6 mois qu'on essaye de la... Voilà. Mais quand ils sortent là... Non, nous avons une valeur. Que nous soyons bien habillés, que nous ayons simplement une chemise, ce n'est pas un problème. Nous avons de la valeur. Alléluia. N'essayons pas de vouloir avoir de la valeur à partir de ce qui est éphémère. Non, il y a une valeur en nous qui ne dépend pas de ce que nous avons, même pas de ce que nous sommes. Donc, en agissant ainsi, c'est-à-dire en faisant du travail pour Dieu une priorité, eh bien, nous sombrons dans une sorte d'activisme religieux, une sorte d'affairisme destructeur. On se retrouve à courir. Non, je dois chanter pour le Seigneur. Oui, je dois faire ceci pour le Seigneur. Oui, mais tu ne vois pas, je dois visiter les malades, etc. C'est très bien tout cela. Mais si tu dois le faire au détriment de ta relation avec le Seigneur, il est grand temps que tu t'arrêtes. C'est là que nous arrivons au deuxième niveau, je m'arrêterai là. Le service avec Dieu. Nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Paul l'a dit, nous sommes ouvriers avec... Dieu est appelé à être notre partenaire, non seulement dans les choses spirituelles, mes amis, mais aussi dans les choses de ce monde, partenaire dans notre responsabilité, quelle qu'elle soit, partenaire dans notre foyer, partenaire dans nos affaires, alléluia, partenaire dans nos études, étudier avec Dieu, mettre Dieu à la première place et en même temps travailler, car on a vu des étudiants qui, par un excès de zèle, ont cru que le simple fait de jeûner suffisait pour réussir. Après, ils échouent, ils disent, ah, moi, Dieu m'appelle au ministère. Comme si Dieu attendait d'abord que les gens échouent. Alors, dans ces cas, le ministère, c'est un fourre-tout. C'est un lieu où tous ceux qui échouent dans la vie, eh bien, se retrouvent. Ça n'a pas marché dans le travail, viens au ministère. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est Dieu qui est appelé à nous donner cette capacité. Dieu devient notre partenaire et est appelé à être notre partenaire dans la vie de tous les jours. Nous sommes appelés, mes amis, à expérimenter le règne de Dieu. Et pour cela, Dieu doit être avec nous. Si nous privilégions, mes amis, cette proximité avec Dieu, eh bien, nous pourrions exceller dans tous les domaines de notre vie. Car l'intelligence, la sagesse, la prospérité, tout ce dont nous avons besoin, eh bien, nous vient de notre Dieu. Mais c'est dommage que nous ayons encore des chrétiens qui tournent en rond, alors qu'ils ont tout pour réussir, mais simplement parce qu'ils confondent les priorités, etc. Nous sommes appelés à faire toute activité, quelle qu'elle soit, avec le Seigneur. Nous marier avec lui. Alléluia. Quand nous demandons aux jeunes gens de se marier dans le Seigneur, ce n'est pas par sectarisme ou par étroitesse d'esprit. Elle dit non, ou par intolérance. Ils ne veulent pas que leur fille soit épousée par d'autres garçons. Etc. Non, c'est parce qu'en tant que chrétien, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec. C'est parce que le mariage étant une des grandes décisions dans la vie, comment faire cela sans Dieu? C'est parce qu'aussi, le mariage, depuis que le péché est entré dans le monde et que Jésus est venu, eh bien le mariage, même le mariage, n'est plus une priorité par rapport au salut. C'est ainsi qu'il y en a qui se sont abstenus tout en continuant à servir le Seigneur. Se marier avec le Seigneur veut dire trouver un frère ou une sœur qui va non seulement être une épouse, une compagne pour moi, mais également quelqu'un qui va m'aider à mieux connaître le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous encourageons les gens à se marier dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour que l'autre devienne un conseiller, un partenaire de prière, celui avec qui tu vas partager la parole de Dieu, celui qui va t'encourager, celui qui va regarder dans la même direction que toi. Voyez-vous? Donc se marier avec Dieu, travailler avec lui, faire les affaires avec Dieu. Beaucoup ne veulent pas le faire parce que Dieu est contraignant. Si tu veux faire les affaires avec Dieu, ou Dieu soit dans tes affaires, tu dois rester intègre. Tu ne dois pas vouloir essayer d'utiliser des chemins un peu détournés. Là, il se retire. Mais si tu veux avoir sa bénédiction, eh bien, sois attaché à lui. Et lorsque nous travaillons avec Dieu, mes amis, nous avons alors le gage que nous pourrions réussir. Chanter pour Dieu, mais d'abord avec Dieu. Travailler pour Dieu, mais d'abord avec. À ce niveau, nous privilégions la relation. C'est là que le verbe monter de nouveau revient. Voyez-vous, nous devons travailler avec le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, Paul répond très rapidement à cette question dans 2 Corinthiens 3, 5. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais notre capacité vient de Dieu. Alléluia. La capacité, mes amis, à faire quoi que ce soit en rapport avec le service pour Dieu, le service avec Dieu, cette capacité nous vient de lui. Celui qui nous rend capable de communier avec lui. Celui qui nous rend capable de prêcher. Celui qui nous rend capable de chanter pour sa gloire. Celui qui nous rend capable, qui nous donne la capacité d'expérimenter l'extraordinaire au quotidien. D'expérimenter l'extraordinaire tout le jour de notre vie. Car nous sommes des enfants de Dieu destinés à plus. Mais malheureusement, nous nous contentons souvent du peu. Jésus est venu manifester le règne impérial de Dieu. Et lui seul nous rend capable de l'expérimenter. Car, nous dit Paul dans Romains, il nous a été fait la grâce abondante de régner, comment? Par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est appelé à nous faire régner. Dans notre responsabilité, dans nos études, dans notre profession, mes amis, dans notre foyer, il y a moyen d'expérimenter tout cela. Mais pour que nous l'expérimentions, il faut que Dieu soit avec. Et là, il y a une condition. Car vous ne pouvez pas être avec Dieu à n'importe quel prix. Vous l'invitez, Seigneur, viens, puis viens, mon petit. Ok, fiston, allons-y. Attention, fais ceci, attention, fais cela. Nous ne pouvons pas être actifs avec Dieu si nous ne le connaissons pas et si nous n'avons pas d'intimité avec lui. Tout commence par là. C'est ainsi que le prophète Azariahou, lorsqu'il partit parler au roi Asa, il lui dit ceci. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous a. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec. Il y a un prix à payer, mes amis, à ce niveau. Il faut que nous associons Dieu dans tout. Qu'il soit toujours présent à chaque fois que nous devons faire quelque chose pour lui. Car celui est lui seul qui va nous donner la capacité de faire des choses pour lui. N'importe qui peut travailler pour Dieu. Vous savez, n'importe qui peut faire de bonnes œuvres. On en trouve dans le monde, hein. Il y a des œuvres caritatives qui sont même soutenues par des gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Mais ce qu'ils font là est quelque chose de noble. Ça rencontre la volonté de Dieu, même si ces gens ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ont construit des écoles pour permettre à d'autres de pouvoir suivre et recevoir une éducation. Ça, c'est quelque chose de noble qui rencontre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? On peut faire des choses pour le Seigneur. Les chants que nous chantons ici, si nous allons chercher une chanteuse dans le monde qui maîtrise très bien la chanson, mais je peux vous assurer, elle chanterait mieux que... Oui ou non? Mais oui. N'importe qui peut faire quelque chose pour le Seigneur, peut travailler pour le Seigneur, mais cependant, n'importe qui ne peut pas travailler avec Dieu. Gloire au Seigneur. Car pour cela, il faut une relation personnelle, il faut une intimité avec lui, il faut s'appuyer sur lui. C'est alors que nous pourrions dire avec Paul, je puis tout. Ceci est valable, c'est un principe qui est valable pour tous mes amis. Je puis tout dans mes affaires par celui qui... Je puis tout dans mes études par celui qui me fortifie. Je puis tout dans mon foyer par celui qui est avec moi. Je puis tout, mes amis, dans mon travail parce que lui est avec moi. Voilà donc les deux premiers niveaux. Concernant le service, deux opportunités pour nous rendre plus actifs pour le Seigneur, travailler pour Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, et enfin, travailler avec Dieu, alors nous pourrions aller plus loin. Car la capacité à faire quoi que ce soit ne peut nous venir que de Dieu et de Dieu seul. Amen. Eh bien, nous allons nous arrêter et je voudrais demander à chacun de nous de pouvoir se mettre très objectivement devant Dieu et réaliser combien le Seigneur voudrait nous accompagner. Il voudrait être avec nous, nous donner la capacité à accomplir des choses pour lui, à travailler avec lui, à demeurer en lui. Et pour cela, il faut que nous apprenions à privilégier ce moment que nous verrons prochainement, si Dieu le veut, le ministère rendu à Dieu, qui reste la priorité suprême. Ces deux niveaux sont des priorités, mais il y a la priorité suprême, à savoir le ministère rendu à Dieu par la prière et dans sa présence. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ta grâce, celle qui nous aide, Seigneur, à pouvoir faire quoi que ce soit pour toi, celle qui nous permet d'être avec toi, de recevoir ainsi de toi toute capacité, non seulement à faire des choses pour toi, mais aussi à pouvoir agir, Seigneur, pour les autres. Aide-nous dans ce domaine. Aide-nous, Seigneur, à être plus actifs pour toi, mais aussi et surtout plus actifs avec toi. Précède-nous dans ce que tu nous demandes de faire. Bénis